Vous êtes sur RTL.
On a en face de nous quelqu'un qu'il faut le dire, qui a deux visages. Je l'ai connu avec un très très beau visage, gentil, serviable, souriant. Et maintenant, quand j'apprends tout ça et que je mets bout à bout tous les éléments du dossier, je me dis que ouais, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout en fait. Mais non, forcément, je la vois sous un visage machiavélique, manipulatrice, rempli de haine.
Bonsoir. Trois morts et deux comas. De toute évidence, la route sentimentale de Manuela Gomez González a été agitée, marquée par le malheur avec ses maris comme avec ses amants successifs. Une succession de troublantes coïncidences, de drames, qui a fini par attirer l'attention des enquêteurs et de la justice. Quand ils se sont penchés sur cette femme brune et souriante qui plaisait tant aux hommes, ils ont mis au jour une étonnante trajectoire, celle d'une personne qui aurait en permanence affiché un double visage côté face, celui d'une mère attentionnée et tendre, une épouse amoureuse côté pile, celui beaucoup plus sombre d'une créature machiavélique, intéressée, allant jusqu'à utiliser le poison pour parvenir à ses fins, une mente religieuse, une veuve noire, comme on allait la surnommer. C'est cette histoire, celle de la veuve noire de l'Isère, l'histoire de Manuela González, que nous allons raconter ce soir à la demande d'une auditrice. Avec nos invités, nous allons voir comment la justice a fini par rattraper Manuela González, quelles accusations très lourdes ont fini par être portées contre elle, des faits que l'intéressée a toujours vigoureusement démenti, évoquant une malédiction, une histoire de malchance qui la suivrait partout. Manuela González a aujourd'hui 60 ans, a dû affronter deux procès, mais demeure une parfaite énigme. Aucun juge, aucun expert n'a jamais pu dire qui elle était vraiment. Manuela González, la veuve noire de l'Isère, quand un malheur n'arrive jamais seul. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
20h, 21h, l'heure du crime sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Manuela González, surnommée la veuve noire de l'Isère. Personne n'a jamais entendu parler d'elle jusqu'à l'automne 2008, avec une macabre découverte à une quinzaine de kilomètres de Grenoble. Le 31 octobre 2008, aux alentours de 8h du matin, un riverain de Villarbonneau est intrigué par la présence d'une carcasse de voiture près d'un champ de maïs. En s'approchant, le riverain identifie une Citroën Xantia presque entièrement calcinée qui fume encore. À l'intérieur du véhicule, il distingue un corps recroquevillé sur la banquette arrière. Plus rien à faire pour cet individu. Les gendarmes sont aussitôt alertés et le périmètre bouclé. Les enquêteurs n'ont pas de mal à identifier la victime. Il s'agit de toute évidence du propriétaire de la voiture, un dénommé Daniel Cano, 58 ans, qui habite dans le coin, à quelques centaines de mètres seulement. Dans le coffre, il y a le cadavre d'un chien. L'animal s'appelait Happy, et c'était le labrador de la famille Cano. La victime est inconnue de la justice. Daniel Cano, un homme tranquille, n'a jamais attiré l'attention. Sa disparition n'avait pas été signalée. Accident, suicide, mauvaise rencontre. À ce stade des investigations, tout est possible. Les gendarmes se rendent au domicile de Daniel Cano, une maison bâtie de ses mains il y a une dizaine d'années, au numéro 188 de l'allée des Trolls à Villarbonneau. Ici vivent le chaudronnier, son épouse Manuela et le fils de celui-ci, Nicolas. Manuela Cano, nom de jeune fille González, accueille les gendarmes sur le pas de la porte. Elle dit ne pas avoir de nouvelles de son mari et ça l'inquiète. Daniel est parti la veille pour aller livrer des oiseaux exotiques dont il fait l'élevage et il n'est jamais rentré. Quand on lui révèle ce qui s'est passé, elle ne semble pas être troublée outre mesure. Elle donne spontanément son emploi du temps aux gendarmes et indique que son mari n'allait pas bien depuis quelque temps, précisément depuis la mort de sa mère. Il voyait tout en noir et semblait de plus en plus dépressif. Selon Manuela, il n'y a aucun doute, Daniel s'est suicidé. Malgré les affirmations de la veuve, les enquêteurs ne vont pas en rester là. Ils veulent procéder à d'autres vérifications, même si l'enquête de voisinage ne donne pas de détails significatifs. Les Cano sont une famille recomposée. Daniel a un fils, Nicolas, qu'il adorait plus que tout. Quand Nicolas était plus petit, c'est elle qui s'est occupée de son éducation, l'encourageait à bien travailler à l'école afin qu'il ait un jour un bon métier. Manuela a, elle, une fille d'un précédent mariage, Virginie, avec qui elle s'entend parfaitement. Il n'est pas rare de croiser Daniel et Manuela dans le coin, se promenant en amoureux avec leur chien Happy, un couple pas très bavard, mais qui n'a jamais posé de problème à son voisinage. Bonsoir Serge Puyot.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes évidemment journaliste et on vous connaît bien sur RTL. Vous êtes notre correspondant, le correspondant de RTL à Grenoble et dans toute cette grande région. Serge Puyot, vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivi, vous l'avez vraiment regardé de près. Tout d'abord, il y a cette scène de crime. Alors a priori, bon, c'est un suicide par le feu, c'est pas tout à fait courant quand même.
Oui, c'est vrai que l'on se suicide plus par arme à feu, par pendaison ou en se jetant d'une falaise ou d'un immeuble. Mais en finir au milieu des flammes, c'est beaucoup plus rare. Effectivement, les gendarmes sont quand même circonspects devant cette scène qui s'offre à eux.
Oui, c'est ça. Ils doutent un petit peu parce que c'est un peu, tout simplement un peu étrange à cet endroit-là, etc. Alors, qui est, Serge, qui est ce couple-là, les canaux qui n'ont pas fait parler d'eux jusqu'à présent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, alors Daniel Cano est chaudronnier dans une entreprise de la région et alors qu'il a 41 ans, il rencontre Manuela Gonzalez en 1991 dans un bar de Brignoux. Manuela, alors 31 ans, c'est une très belle femme, grande, mince, brune, qui attire les hommes. Daniel tombe tout de suite follement amoureux de Manuela, un coup de foudre visiblement réciproque. En 1992, Daniel Cano, avec Manuela, construit de ses mains la maison qui va accueillir leur bonheur. Et en 1997, c'est le mariage. Manuela évoque alors une vie de couple très heureuse. Elle s'occupe de sa fille, Virginie, issue d'une précédente union, mais aussi de Nicolas, le fils de Daniel, né aussi, lui, d'un précédent mariage.
C'est ça, Nicolas qui dira d'ailleurs qu'elle l'a très bien élevé, il allait à l'école, etc., lui a appris.
Il l'a considéré comme sa mère.
Exactement comme sa mère. Bonsoir maître Ronald Gallo.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Je précise que vous êtes au téléphone en direct de la région de Grenoble. Maître Gallo, vous êtes l'avocat de Manuela Gonzalez. Qui est Manuela Gonzalez? Je crois que c'est une famille d'origine espagnole, mais elle est née dans la région elle-même. Hein
oui, elle est née dans la région. Elle est... française plus qu'espagnole. L'Espagne, c'est seulement ses origines. Voilà, c'est une femme qui a eu, comme vous l'avez présenté, hein, une vie difficile, mouvementée, mais elle est tombée, elle, amoureuse de Monsieur Cano, puisque ce couple a vécu 20 ans sans souci. Donc 20 ans, un couple... fidèles l'un à l'autre, c'est devenu une denrée rare.
C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Effectivement, ils vont pas faire parler d'eux et cette liaison va être très longue jusqu'à ce drame. J'ai très brièvement raconté sa réaction lorsqu'elle reçoit les gendarmes. Qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là aux gendarmes précisément, maître Gallo?
Alors, vous l'avez rappelé, vous avez dit que celle-ci n'avait pas été plus troublée que cela. Or, dans les heures qui vont suivre, elle va tout de suite être soupçonnée parce que c'est celle qui l'a vue en dernier, son mari. Or, en garde à vue, elle va être choquée psychologiquement au point que cette garde à vue va devoir être interrompue. Elle sera hospitalisée. Donc, quand on dit qu'au départ, elle n'a pas été plus troublée que cela, j'en suis pas sûr. Il y a une lecture qui est faite a posteriori, parce qu'on va la décrire comme quelqu'un de froide et d'indifférente. Or, tel n'est pas le cas dans les premières heures où elle va apprendre que son mari est mort.
Ce que vous dites, maître Gallo, c'est que dès le début, les gendarmes ils font une fixette, on pourrait dire, entre guillemets, sur Manuela.
Je ne sais pas si c'est une fixette, c'est un soupçon. Dans la mesure où c'est la dernière personne qui a vu M. Cano, nécessairement, les gendarmes vont s'intéresser à la dernière personne. Tout lecteur de livres policiers, même moyen, sait que la dernière personne est nécessairement celle qui sera suspectée en premier.
Bien sûr, c'est tout à fait, et c'est d'ailleurs tout à fait légitime. L'attention se porte effectivement sur le dernier témoin, Serge Puyot, notre invité également ce soir dans l'heure du crime. Alors, on l'a dit tout de suite, les gendarmes, ils tiquent un petit peu. C'est la dernière personne à avoir vu vivant la victime. Alors ça pose certaines questions. Et puis il va y avoir tout de même un premier constat dans l'autopsie, c'est que la victime a absorbé des antidépresseurs, je crois. Donc ça va.
Oui. Des traces de tertian, de zolpidem et d'imoval ont été retrouvées dans le corps de Daniel Cano lors de l'autopsie. Il s'agit de deux somnifères et d'un neuroleptique qui n'ont jamais été prescrits par un médecin à la victime. Donc ça intrigue un peu les enquêteurs. Et puis les gendarmes ne retrouvent pas dans la voiture incendiée ou aux abords les restes d'un bidon qui aurait contenu l'essence permettant de déclencher l'incendie, ce qui pourrait indiquer qu'une tierce personne soit repartie avec un jerrycan.
Alors ça, c'est important ce que vous nous dites, Serge, parce que la mise à feu proprement dite, il n'y a pas le produit, il n'y a pas le matériel, on ne trouve rien là-dessus ?
Non, on ne trouve rien. Les gendarmes n'ont rien retrouvé sur le déclenchement de l'incendie, et ça, pour eux, ça reste un mystère.
Maître Gallo, en quelques mots, vous confirmez qu'elle a vu partir son mari la veille pour aller vendre des oiseaux, c'est bien ça, hein ?
Oui, c'est ce elle rapporte les propos que son mari lui a indiqué pour justifier son départ de la maison. Mmh. Elle rapporte que son mari lui a dit qu'il allait donc vendre des oiseaux. Maintenant, est-ce la vérité, puisqu'il s'avère que les oiseaux sont fragiles et qu'ils ne doivent pas être exposés au froid? Mais néanmoins, c'est ce qu'on lui a dit. Donc elle rapporte les propos que son mari lui a dit. Parce qu'il faut aussi préciser, je ne sais pas si vous le direz, que M. Cano, on va apprendre qu'il a une relation, entre guillemets, avec une femme à l'extérieur. Madame Cano n'est pas informée de cela. Elle va l'apprendre à l'occasion de la procédure. Donc M. Cano peut avoir de bonnes raisons pour justifier qu'il parte
une absence,
de la maison, même
sûr.
Pour une raison qui n'apparaît pas être pertinente.
Le fait est que les gendarmes sont intrigués par cette Manuela Cano González. Ils ont effectivement des doutes sur ce qu'elle raconte et son attitude intrigue. Ils vont donc se plonger plus précisément dans les affaires du couple. L'affaire Manuela González, la veuve noire de l'Isère, pourquoi donc aurait-elle voulu tuer son mari ? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
L'heure du crime sur RTL.
Et au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Manuela González. En ce début novembre 2008, son mari, le chaudronnier Daniel Cano, a été retrouvé mort, calciné dans sa voiture. Les gendarmes ne croient pas à ce qu'affirme la veuve, un suicide. Les enquêteurs ont été tout de suite intrigués par les résultats de l'autopsie, la présence dans le sang de la victime d'un cocktail de sédatifs qui a dû l'assommer, du tertian, du zolpidem et de l'imovan. Daniel Cano a très bien pu les ingérer lui-même avant de se donner la mort, même si au moins un de ces produits est apparemment prescrit à son épouse pour soigner une dépression. En poursuivant leurs investigations, les gendarmes découvrent des problèmes d'argent qui semblaient miner la vie du couple. Tous deux étaient adeptes des jeux d'argent, addicts aux salles de jeu, au casino, à la roulette, au blackjack. Une bonne partie de leurs économies aurait fondu dans ces plaisirs sur tapis vert, notamment au casino de la station thermale d'Alvar. Manuela González aurait perdu beaucoup d'argent. Elle aurait contracté une demi-douzaine de prêts à la consommation et devait rembourser près de 110 000 euros. Le fils de Daniel, Nicolas Cano, raconte que l'argent était bien une source de conflit entre son père et sa belle-mère. Celle-ci, pour rembourser ses dettes, avait contracté un nouveau prêt de 165 000 euros, garanti par une hypothèque sur la maison familiale construite par Daniel. Elle n'en aurait pas parlé à son mari, qui n'aurait découvert que plus tard le poteau rose. Il se serait mis alors en colère et leur relation n'aurait cessé de se dégrader. Les gendarmes se focalisent sur ce prêt et cette hypothèque car, en cas de mort du souscripteur, Daniel Cano, dont la signature a été falsifiée, les échéances auraient été prises en charge par l'assurance du défunt. En outre, en cas de décès, la veuve aurait pu toucher une assurance vie qui avoisinerait les 235 000 euros. Pour les enquêteurs, l'appât du gain aurait pu conduire Manuela à tuer Daniel. Les confidences du fils Nicolas sont précieuses. Celui-ci affirme que son père n'avait aucune intention suicidaire. Tout au contraire, il s'apprêtait à construire un garage et rêvait d'aller pêcher le saumon au Canada. Le fils de Daniel relate aussi un curieux épisode survenu dans la nuit du 29 septembre 2008, soit un mois avant la mort de son père. En pleine nuit, vers 4h du matin, il avait failli brûler vif dans sa chambre alors qu'il dormait seul. Il s'était réveillé in extremis et avait pu se sauver. Selon Manuela, une grosse bougie de Lourdes allumée pour la mort de sa mère et renversée par le chien aurait mis le feu à la chambre. Nicolas Cano affirmera avoir entendu son père dire après l'incendie « Manuela, ne me prends pas pour un con, il n'y a jamais eu de bougie dans la chambre ». Maître Ronald Gallo, en ligne ce soir, est notre invité dans l'heure du crime. Alors, il y a tout de suite cette piste de l'argent qui va d'ailleurs peser lourd dans ce dossier. Qu'est-ce qu'il faut en penser, ces assurances qui auraient pu lui sauver la mise à Manuela González?
Oui, il y aurait un problème d'argent, mais il y a un mystère dans ce dossier. Un de plus, je dirais, c'est par exemple l'hypothèque. L'hypothèque que M. Cano aurait ignorée. Il faut savoir, et cela a été un point très débattu à l'occasion des deux procès, mais jamais résolu. Une hypothèque, c'est un acte authentique qui est rédigé devant un notaire. Mmh. Or, pour que cet acte soit authentique, il faut que les deux personnes propriétaires de l'immeuble soient en face du notaire. Mmh. Or, le notaire n'a jamais contesté qu'en face de lui, il y aurait eu M. Cano. Et tout d'un coup, on nous dit et on nous apprend qu'en face du notaire, il y aurait eu une autre personne. Cette personne n'a jamais été identifiée. Donc, est-ce que c'est la vérité lorsqu'on soutient que Mme Cano aurait présenté une personne autre que son mari au notaire, notaire qui connaissait l'identité de M. Cano ?
Mais qui ne le connaissait pas, qui ne le connaissait pas physiquement, c'est bien ça ?
Ça, je ne sais pas s'il ne l'avait pas déjà vu, mais toujours est-il qu'un notaire a l'obligation de solliciter l'identité de celui qui vient s'engager pour un acte authentique. Donc le notaire a vécu deux périodes très compliquées, une devant la cour d'assises de l'Isère, où il est passé pour un suspect, parce que un notaire qui n'aurait pas fait le travail de manière scrupuleuse, c'est-à-dire un faux en réalité, puisqu'il se serait agi d'une autre personne que M. Cano, et néanmoins il aurait authentifié l'acte.
D'accord.
C'est un acte qui serait faux et justifiant même d'une poursuite devant la cour d'assises. Mmh. Donc vous voyez la difficulté quand on affirme des choses qui vont avoir des conséquences sur la démonstration de la culpabilité d'une personne qui est fondée sur quelque chose qui n'a jamais été vérifié ni démontré, c'est très embarrassant. Quand on dit que Mme Cano était aux abois...
Alors, dites-nous justement, parce que j'allais vous poser la question, est-ce que Manuela González, est-ce qu'elle est endettée jusqu'au cou, on peut dire les choses comme ça?
Alors, auprès de qui?
Ah, je ne sais pas, je vous pose la question, maître.
Moi, c'est la question que j'ai posée.
Apparemment, ce que j'ai pu voir du dossier, c'est qu'elle aurait beaucoup joué, notamment sur les tapis verts, les casinos, et qu'elle aurait perdu beaucoup d'argent et qu'elle multipliait les prêts pour un petit peu rattraper sa mise.
Multiplier les prêts, vous avez celui dont vous parlez. Mmh. Le prêt qui aurait été authentifié par une hypothèque. Mmh. Hypothèque qui s'avère être un acte authentique en présence de M. Cano. Ils avaient des difficultés. Mais de là à susciter des conflits entre eux, il y a eu un témoignage très tardif de Nicolas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce dossier, il y a une première enquête au cours de laquelle Mme Cano sera placée en garde à vue, puis relâchée, puisque hospitalisée, puis va s'écouler 18 mois. 18 mois pendant lesquels Mme Cano sera libre.
Exactement. Oui, 18 mois, ça va être un délai très long et on va y revenir dans les chapitres suivants de cette heure du crime. Serge Puyot, notre correspondant à Grenoble de RTL, il y a cette histoire que j'ai évoquée, l'histoire de la bougie. Le feu dans la chambre de Daniel Cano, un mois seulement avant qu'il ne trouve la mort. Qu'est-ce que racontent les uns et les autres sur ce point ?
Alors Manuela maintient qu'il s'agit bien d'un accident, que la bougie allumée par Daniel Cano en mémoire de sa mère décédée est tombé accidentellement, qui est peut-être renversé par le chien de la famille. Alors bizarrement, Manuela n'était pas dans la chambre à ce moment-là. Il était pourtant 4 heures du matin. Mmh. Elle explique qu'elle était descendue à la cuisine pour préparer le casse-croûte de son mari, hein, qui dans la journée se mangeait sur les lieux de son travail. Les pompiers n'ont jamais retrouvé trace de cette fameuse bougie. Et effectivement, Nicolas Cano aurait surpris une conversation entre son père et Manuela. Son père, donc, qui aurait lâché, ne me prends pas pour un con, il n'y a jamais eu de bougie dans cette chambre.
Oui, c'est
alors, Manuela a démenti l'existence de cette conversation. Elle a même affirmé devant les gendarmes que si son mari avait eu des doutes envers elle, il l'aurait quittée. Donc, pour elle, cet accident a bien existé.
Alors, Serge, encore un petit mot. L'enquête va aller très loin. Hein. On va scruter tous les détails. Et il va être même reproché aussi à Manuela González de ne pas avoir pleuré lors des obsèques, ce qui serait un signe finalement de désintérêt pour la mort de son mari.
Oui, c'est vrai que lors des obsèques, Daniel Cano, lors de ses obsèques, plusieurs participants affirment avoir vu une veuve, je dirais presque joyeuse, loin en tout cas d'être effondrée. Le fils de Daniel Cano m'a même expliqué que Manuela ne pleurait pas, qu'elle discutait tranquillement avec les gens. Et avec le sourire, dit-il. C'est vrai que ce comportement a interpellé pas mal de personnes.
Au mois de mars 2010, Manuela Cano González est mise en examen pour assassinat. Elle est écrouée. Elle dément farouchement avoir tué son mari, un époux, dit-elle, qu'elle aimait et dont elle regrette l'absence. L'affaire Manuela González, une veuve certes, mais est-elle réellement une veuve noire ? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Manuela González, surnommée la veuve noire de l'Isère. 2 ans après la mort de son mari, elle est accusée d'assassinat. L'enquête a révélé un possible mobile, l'argent, mais a également fait surgir le passé de la veuve. Dans son sillage, 2 empoisonnements et 2 suicides. En enquêtant sur Manuela González, les gendarmes reconstituent la vie mouvementée côté cœur de Manuela. En 1976, à 16 ans, elle rencontre Gilbert Martoya dans une fête foraine. Ils se marient 2 ans plus tard et ont une fille, Virginie, née en 1981. Au mois de décembre 1983, Gilbert doit être opéré en urgence. Il a absorbé une dose massive de médicaments. Il sombre dans un coma profond. Il faudra lui retirer une partie de l'œsophage. Le mari s'en sort. Il n'accusera jamais son épouse de l'avoir empoisonnée, mais quelques semaines plus tard, le divorce est prononcé. Dans les mois qui suivent, Manuela est avec un bijoutier de la région, Michel Garcia. Le 11 novembre 1984, il est retrouvé évanoui dans sa boutique. Un puissant psychotrope a été versé dans son thé. Cette fois, la jeune femme est démasquée. Elle a endormi son amant fortuné pour lui voler 4 chèques, 84 000 euros au total, pour, dit-elle, pouvoir nourrir sa fille. Elle écope de 2 ans de prison avec sursis. Manuela González se met ensuite en ménage avec le patron du bar du centre à Brignoux, l'un des bourgs qui forment la commune de Villarbonneau. Pour ses beaux yeux, François Collado lâche son établissement. Le couple achète une maison. 3 ans de vie commune sans attirer la moindre attention. Dans la nuit du 28 au 29 avril 1989, Collado est découvert mort dans le garage. Il s'est donné la mort en s'asphyxiant dans sa voiture. Des traces de médicaments sont détectées dans son organisme. Selon Manuela, François était dépressif et a mis fin à ses jours. L'enquête est classée. Elle conclut à un suicide. La veuve retrouve un nouveau compagnon. Il s'appelle Thierry Le Chevalier, fraîchement divorcé, fonctionnaire à la NPE. Le 6 avril 1991, il succombe dans un incendie qui s'est déclaré dans un cagibi. Lui aussi avait pris des médicaments. Manuela González a un alibi. Elle était ce soir-là dans les bras d'un autre homme, le chaudronnier Daniel Cano. Il confirme la présence de Manuela à ses côtés. Elle ne sera pas inquiétée pour la mort de Thierry Le Chevalier. 17 ans plus tard, c'est celle de Daniel qui l'entraînera en prison. Maître Ronald Gallo, avocat de Manuel González, de Manuela González, pardon, ce soir dans l'heure du crime. Alors je vous pose la question très, très directement et un peu brute de décoffrage, pardon, mais un mari et un amant dans le coma, puis trois suicides, ça fait beaucoup dans le parcours d'une femme.
Oui, ça fait beaucoup, mais puisque vous avez évoqué comme mobile l'argent, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'elle a gagné Manuela Cano, Manuela González, dans les faits qui lui sont reprochés sans lui être reprochés. Parce que c'est ça la difficulté de ce dossier. Vous avez tout dit. À travers ces événements, on va fermer les yeux sur l'accusation réelle, c'est-à-dire l'assassinat et la tentative d'assassinat. Parce que la bougie va devenir une tentative d'assassinat. Mmh. Aussi étonnant que cela puisse apparaître, elle va être poursuivie pour une bougie qui aurait flambé et qui se serait consumée. Elle va être poursuivie pour tentative d'assassinat et condamnée. Mmh. Alors s'agissant des autres dossiers, Chevalier, vous dites qu'elle ne sera pas inquiétée. Si ? Pour M. Chevalier, elle sera inquiétée.
Le Chevalier, Thierry Le Chevalier. Oui.
Thierry Le Chevalier, elle sera inquiétée puisqu'elle va être accusée, inculpée, comme on disait à l'époque, puis un non-lieu sera ordonné. Un non-lieu, c'est-à-dire que la justice à l'époque avait estimé qu'elle était innocente des faits qui lui étaient reprochés. Donc, on va se servir de ce passé qui va constituer le préjugé central, le masque qui va rendre aveugle tout le monde et qui va interdire de se poser les bonnes questions s'agissant du dossier d'assassinat de M. Cano et de la tentative d'assassinat.
Je comprends bien, Maître Gallo, mais c'est vrai que... Entre nous, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Voilà, on peut juste le constater comme ça.
Hein. Oui, on peut.
Ce sont des faits qui sont prescrits, etc. Mais ça fait quand même une série de coïncidences troublantes dans une seule vie. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Maître Gallo, un élément qui est intéressant et qui d'ailleurs ne va. Je ne sais pas si ça va beaucoup apparaître lors du procès. C'est la liaison qu'aurait eu Daniel Cano avec une maîtresse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Oui, ça va pas beaucoup apparaître dans les procès parce que la personne ne va pas être invitée à venir s'exprimer sur les relations qu'elle a pu avoir avec Daniel Cano. Mais on va apprendre à l'occasion de la procédure, et je pense que tout le monde ne le savait pas, c'était le secret de M. Cano. Elle, cette jeune femme, cette femme, il la voyait régulièrement, une fois par semaine, je crois, sans que personne ne le sache. On n'a pas appris beaucoup plus sur cette liaison. On n'a pas pu dire ce qu'il s'agissait exactement, s'il y avait un projet, s'il y avait une volonté de rupture avec Manuela Cano. On n'en sait rien. C'est aussi un mystère.
Ce que je voulais dire par là, c'est que ça pourrait être aussi éventuellement un mobile si les choses sont allées loin et si, par exemple, Manuela González a découvert l'infidélité de son mari. Ça pouvait aussi expliquer.
Oui, c'est possible. Ça n'a pas été abordé. Manuela Cano n'a jamais souhaité qu'on en parle de cette manière, mais c'est vrai qu'il y avait un sentiment très fort de la part de Manuela Cano à l'égard de Daniel Cano. Je pense que si elle avait appris cette liaison, peut-être cela aurait suscité un courroux. Mais de là à imaginer
que cela ait été
le mobile, on ne peut pas le dire.
Bien sûr. Serge Pueyot, notre correspondant RTL à Grenoble, j'ai très rapidement évoqué le bijoutier Michel Garcia, là, qui, Manuela, détourne 4 chèques et elle sera condamnée pour cela. Il y a d'autres escroqueries qui vont lui être imputées, même anciennes, notamment lorsqu'elle était monitrice d'auto-école, c'est bien ça ?
Oui, c'est en 2005. Manuela dirige une auto-école à Brignoux, mais la justice va lui reprocher un trafic de permis de conduire qu'elle a mis en place avec un inspecteur ripoux. Les deux complices vendaient des permis clés en main. De mémoire, 1000 euros le code et 1500 euros la conduite. L'escroquerie a été découverte et Manuela González sera condamnée pour ces faits à 10 mois de prison avec sursis, 5000 euros d'amende et une interdiction d'exercer pendant 5 ans la profession donc de responsable d'auto-école.
Comment expliquer, Serge Pueyo, vous qui connaissez bien les gendarmes, les policiers et les mécanismes d'une enquête, comment expliquer que des rapprochements n'aient pas été faits avec ces affaires anciennes, qui sont prescrites, hein, il faut le dire. Hein.
Oui, alors il y a eu peut-être effectivement des carences, il faut dire, de la justice et des enquêteurs qui n'ont pas assez creusé certains dossiers concernant les morts suspectes des compagnons de Manuela. C'est vrai qu'il y a eu des soupçons, mais il manquait de preuves matérielles accablantes ou irréfutables. Et donc Manuela est peut-être passée entre les mailles du filet, même si à ce jour, hein, il faut bien le préciser, elle est toujours présumée innocente pour ces faits-là.
Un passé qui vaut à Manuela González un surnom, la veuve noire, qui va la poursuivre jusqu'à la cour d'assises, où malgré ses dénégations, elle est appelée à comparaître. L'affaire Manuela González, la veuve noire, victime du mauvais sort ou céréale empoisonneuse? C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir dans l'heure du crime, le dossier Manuela González, enquête sur celle qu'on surnomme la veuve noire de l'Isère. Au printemps 2014, 6 ans après la mort de son mari, elle apparaît devant la cour d'assises. Ce 14 avril 2014, Manuela González, 53 ans, prend discrètement place face aux jurés, magistrats, avocats de la cour d'assises de l'Isère. À Grenoble, elle porte de petites lunettes rouges, un chemisier blanc, un foulard rose, les cheveux coiffés en chignon. Elle se décrit comme une personne, comme tout le monde, quelqu'un qui travaille pour s'en sortir et pour payer ses dettes. Manuela González s'exprime clairement, bien décidée à répéter qu'elle est innocente dans la mort de son mari Daniel Cano, retrouvé calciné dans sa voiture. Le psychologue Gérard Poussin parle d'une personnalité originale et difficile à cerner, et qui reste en partie une énigme. Femme secrète et mystérieuse, dit un enquêteur. Celle-ci prend des notes et répond du tac au tac. Je n'ai pas de caractère secret, pas de carapace, rien du tout. Je suis moi-même. L'enquête de personnalité va peser lourd, une vie sentimentale des plus instables, un caractère volage, des dettes, la passion du jeu, son passé rejaillit. En filigrane des débats se profilent inévitablement les doutes sur cette série d'empoisonnements et de morts qui ont jalonné son existence. Son avocat, Ronald Gallo, s'élève lors des 3 jours d'audience contre l'utilisation de ce passé. Le premier mari de l'accusé, Gilbert Martoya, est appelé à la barre. Il avait été lourdement intoxiqué aux médicaments et avait échappé à la mort, il dit n'avoir jamais fait de tentative de suicide, évite de charger son ex-épouse tout en se disant troublé par cette suite d'événements. Manuela González dément avoir tué Daniel Cano. Sur son passé, elle dit « Si c'était à refaire, je resterais seule avec ma fille ». L'avocat général Pierre-Marie Cuny est catégorique. « Je suis intimement convaincu que Manuela González a tout mis en œuvre pour tuer son mari. Même s'il n'y a pas de preuves évidentes contre elle, il y a un faisceau de faits, d'éléments, de constatation. Pour l'accusation, le mobile de l'assassinat est clair, c'est l'argent. » Serge Pueyot, notre correspondant à RTL dans la région de l'Isère et plus précisément à Grenoble, je crois que vous étiez à ce procès. À quoi ressemble-t-elle à ce moment-là, Manuela González? Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu?
Oui, alors lorsqu'elle apparaît dans le box, eh bien Manuela a perdu de sa superbe hein, après 4 ans de détention préventive. Mmh. Elle a le visage marqué, elle a pris un coup de vieux, pourrait-on dire. Ce n'est plus la mante religieuse qui, avec son charme ravageur, faisait tomber les hommes à ses pieds. Mais elle n'a pas perdu sa combativité, hein, sa combativité oui. légendaire. Elle se défend comme une lionne. Dès l'ouverture des débats, elle se lève dans le box et elle déclare « Je conteste les faits, je suis innocente et je suis là pour le démontrer ». Donc d'emblée, elle clame son innocence. Et puis après, elle explique que si c'était à refaire, je resterais seule avec ma fille. Mmh. La malédiction n'aurait pas eu lieu. C'est une histoire de malchance qui me poursuit, dit-elle, à propos de toutes ces morts suspectes.
De toute cette série, effectivement. Quelle ambiance y règne dans cette salle d'audience? Est-ce qu'il y a du public? On est venu voir la veuve noire, c'est ça?
Exactement, la veuve noire a attiré beaucoup de monde dans la salle de la cour d'assises du palais de justice de Grenoble. Et puis, dans cette salle, il y a deux clans hein, durant le procès. Deux clans qui s'opposent, la famille et les proches de Manuel González, qui sont à droite de la cour d'assises, près du box, et qui soutiennent bien sûr Manuela à fond. Et de l'autre côté, les proches de Daniel Cano, sa famille, qui, au contraire, eh bien, enfoncent Manuela González, qui sont persuadés de sa culpabilité.
Ouais, c'est ça, il y a une vraie bagarre qui se dessine à l'audience. Alors, j'ai dit que les experts étaient, ou en tout cas un expert psychiatre, était un petit peu perdu face à cette personnalité troublante de Manuela González. Elle est réellement énigmatique. On a du mal à la saisir, à la décrypter.
Oui, c'est vrai qu'on a du mal à la comprendre parfois, même si elle se défend pied à pied. Je me souviens de son premier mari, Gilbert Martoya, qu'elle aurait empoisonné, hein, qui est resté d'ailleurs 3 mois dans le coma. Eh bien, il est venu déclarer à la barre, Manuela est une personne très intelligente, qui a une forte capacité d'adaptation à toutes les situations. Voilà, c'est vrai que c'est une femme qui sait s'adapter, qui répond du tac au tac aux questions du président, aux questions de l'avocat général. Elle a répondu à tout et elle ne lâche rien. Elle considère que tout ce qui lui arrive, eh bien, c'est de la malchance et qu'on s'acharne sur elle alors que c'est elle la victime.
Maître Ronald Gallo, avocat de Manuela González, est en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je vais rappeler des propos que vous avez tenus à cette audience. On se focalise sur le passé de Manuela González. Aujourd'hui, on juge Madame Cano, son nom de femme mariée, pour des faits précis, pas pour des faits prescrits. Vous vouliez dire que finalement, c'était le passé qui l'emportait dans ce procès et que tout serait fait pour lester finalement votre cliente.
Mais bien sûr, mais c'est la victoire des préjugés sur la démonstration de la culpabilité. L'idée devant une cour d'assises qui doit dominer, c'est quels effets ont fait sur votre raison les preuves rapportées contre l'accusé. C'est le texte. Or, vous avez un commissaire de police, un directeur d'enquête, qui vient devant la cour d'assises, à qui j'ose poser la question, parce qu'on ne connaît pas la réponse d'un directeur d'enquête lorsqu'on lui pose ce genre de questions. On lui demande, monsieur, est-ce que vous avez la preuve de la culpabilité de Madame Cano ? Après que celui-ci se soit exprimé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est la question finale qui lui est posée par l'avocat de la défense, et il va répondre... C'est vrai, maître, nous n'avons pas de preuve de la culpabilité de votre client. Pas de preuve. Or, la loi, c'est la preuve, pas ce que M. Pueyo vient dire. M. Garcia aurait été, pas M. Garcia, M. Martoya aurait été empoisonné. M. Martoya, celui qui est venu témoigner, le père de Virginie, la fille de Mme González. On n'en sait rien, lui-même ne l'a jamais dit.
Oui,
on voyait
en
bien
en tout cas,
des années après, les préjugés continuent à produire des effets sur la capacité qu'on a ou pas de regarder ce qui s'est passé réellement. Quand on revient à la scène qui devrait préoccuper tout le monde, celle où la voiture prend feu, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne retrouve pas comment... Par quelle technique cette voiture a-t-elle brûlé, a-t-elle flambé ?
Est-ce qu'on le sait, maître ? Est-ce qu'on le sait ?
On ne le sait pas. Est-ce qu'on a pris les vêtements de Mme Cano ? Les vêtements de Mme Cano alors qu'on est chez elle dans les heures qui ont suivi la mort de M. Cano ? Est-ce qu'on vérifie s'il y a des traces d'essence, de combustion ? On ne fait pas les recherches, justement, qui doivent s'imposer. Pourquoi on ne les fait pas ? Est-ce qu'on va voir à la tombe le cercueil de M. Cano s'il y a effectivement cette lettre dont parle Mme González qui dit qu'il y a une lettre qui laisse entendre que celui-ci va rejoindre sa mère dans les mois qui vont suivre. Est-ce qu'on ouvre ce cercueil ? On l'a jamais fait. Est-ce qu'on vérifie réellement s'il y avait un tiers devant le notaire ? On ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'en raison de la question que vous venez de poser, ce qui compte, c'est le passé, et le passé va faire justice à la place de la réalité.
Les jurés ne vont pas suivre ces interrogations. 30 ans de prison pour Manuela González, qui n'a pourtant cessé de répéter qu'elle était innocente. Elle n'en a pas fini avec la justice, ou la justice n'en a pas fini avec elle, puisqu'elle va faire appel de cette condamnation. L'affaire Manuela González, de nouveaux jurés vont-ils croire à l'innocence de la veuve noire ? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Dans l'heure du crime ce soir, l'affaire Manuela González, la veuve noire. Des doutes sur son passé, condamnée à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de son dernier mari, coup de théâtre. Elle a retrouvé la liberté avant de comparaître en appel. Le lundi 21 septembre 2015, 17 mois après sa condamnation, Manuela González est libérée par la cour d'appel de Grenoble en raison d'un vice de procédure. Celle-ci était en détention provisoire depuis 2010. La veuve noire, comme on la surnomme, peut retrouver sa famille à la Motte d'Aveillan, en Isère, son village natal. Ses proches la soutiennent. Sa fille Virginie, enfant née de son tout premier mariage, n'a jamais cru à la culpabilité de sa mère. Lors du procès de Grenoble, elle avait déclaré « Je veux défendre ma maman, que je sais innocente. Il n'y a aucune preuve contre elle. C'est trop facile de se servir de son passé. » Libération qui, en revanche, désole au plus haut point la partie civile. Nicolas Cano, le fils de la victime, il ne comprend pas la libération de cette femme qui, dit-il, porte le surnom qu'elle mérite. Au mois de mai 2016, s'ouvre devant la cour d'assises d'appel de la Drôme, à Valence, le deuxième procès de Manuela González. Sa défense sait qu'elle va devoir à nouveau essayer de gommer son image, celle d'une mente religieuse. « Je souffre de la perte de mon mari. Si je ne pleure pas, on me juge froide. Si je pleure, on dit que je fais la comédie », sanglote-t-elle. Le fils de Daniel Cano ne desserre pas les poings en écoutant cette confession. En dépit des larmes, les jurés de la Drôme répondent oui aux quatre questions qui leur étaient posées. Malgré l'absence de preuves évidentes, Manuela González est à nouveau condamnée à 30 ans de prison. Maître Ronald Gallo, confirmation, 30 ans de prison. Vous espériez, je crois, que cette fois, la voix de votre cliente soit entendue.
On espère toujours que la justice gagne sur le préjugé, je vous le disais précédemment, tout en étant lucide, en sachant que quelquefois, on va condamner quelqu'un parce qu'il ne pleure pas sur la tombe de sa mère, comme l'étranger dans Camus, ou là, en l'occurrence, qu'il ne pleure pas suffisamment sur la tombe de son mari. On sait que les apparences, les préjugés sont quelquefois plus forts que la raison et l'exigence de preuves, et c'est ce qui va malheureusement arriver. On la présente, et vous le dites de manière répétée, vous dites la mente religieuse, vous dites la veuve noire, et tous ces adjectifs, ces qualificatifs vont peser lourd sur la capacité des juges à faire abstraction de ces préjugements.
Et des jurés, maître, et des jurés, parce que vous parlez des juges et des jurés, hein.
Les jurés et les juges, les jurés qui sont des juges, qui sont des juges de la journée ou des trois jours pendant lesquels ils sont réunis. Oui, c'est vrai, c'est un échec qui est dû à la manière dont les procès se déroulent, à la volonté de fermer les yeux sur les questions qui sont posées. Je vous le disais, est-ce que Monsieur Cano s'est suicidé? C'est une question. Est-ce qu'on a tenté de répondre à cette question? Moi, j'ai posé la question, j'ai dit « Essayons, allons vérifier ce que dit Madame Cano ». L'avocate générale près de la cour d'appel que j'avais saisie avait soutenu cette démarche et ça n'a pas été satisfait. Mmh. On a fait la demande à nouveau devant la cour d'assises de la Drôme, où ma cliente était jugée à nouveau. On nous a fait attendre toute la durée du procès pour nous dire que cela n'était pas utile à la manifestation de la vérité. Vous voyez, quand on ferme les yeux, il n'y a aucune raison qu'à la fin, on est la lumière.
Maître Gallo, qu'est-ce qu'il y a de différent avec le procès de première instance? Elle affiche pas tout à fait le même visage, votre cliente, lors de ses audiences.
D'abord, elle est libre.
Oui, ce qui change beaucoup de choses, bien sûr.
Qui n'est pas obtenu par un vice de procédure, comme vous l'avez dit, c'est parce que le délai raisonnable pour qu'elle soit jugée n'avait pas été respecté.
C'est plus précis.
C'est ce que j'ai obtenu de la cour d'appel de Grenoble, qu'elle soit libérée. Or, on nous a dit pendant des mois, Madame González, si elle venait à être libérée, ne serait pas présente à son procès. Elle a démontré le contraire. Donc c'est ça la première grande différence. La deuxième, c'est que elle est arrivée en blond parce qu'elle avait souffert de la présentation que faisait Monsieur Cuny, l'avocat général de la devant la cour d'assises de l'Isère.
Le noir vous va si bien.
Le noir vous va si bien. Donc elle avait cru bon venir avec une autre couleur plus lumineuse.
Plus lumineuse. Serge Puyot, on écoute évidemment Maître Gallo. Impossible de se défaire de cette étiquette de veuve noire pour Manuela González.
Ah oui, c'est vrai qu'elle a gardé jusqu'au bout cette image de femme machiavélique, calculatrice, qui a froidement décidé, pourrait-on dire, de supprimer ses maris ou ses compagnons. Alors, Maître Gallo va dire qu'effectivement, la responsabilité est due à la presse, qui a effectivement l'a toujours qualifiée de veuve noire. Mm-hmm. En tout cas, effectivement, dans l'opinion publique, pour tout le monde à Grenoble ou dans la région, c'est vrai qu'elle était responsable des défaits qui lui étaient reprochés et qu'elle a jamais pu se défaire de cette image de femme effectivement machiavélique.
Alors vous parlez justement de Grenoble et de cette région que vous connaissez par cœur, vous y vivez. Est-ce que cette histoire a laissé une marque dans ce coin? Est-ce qu'on en parle encore? C'est quelque chose d'important?
Ah oui, oui. La preuve, une auditrice vous a demandé de revenir sur cette affaire. C'est vrai qu'à Grenoble, c'est une affaire qui a marqué. Le procès à Grenoble a attiré beaucoup de monde. Voilà, c'est vrai que dans l'opinion publique, parmi la population, tout le monde a suivi tous les épisodes de cette affaire, à travers notamment aussi la presse locale. Et c'est vrai que c'est une affaire qui restera dans les mémoires à Grenoble. Je crois que M. Gallo ne pourra pas dire le contraire. C'est vrai que c'est un procès très médiatique qui avait eu lieu au Palais de Justice.
Maître Gallo, justement, vous avez, je crois, formé des recours après cette condamnation définitive. Qu'est-ce qu'il en est? Tout est épuisé aujourd'hui?
Non, les recours sont finis là. Elle purge sa peine. Elle a même fait une demande récemment d'aménagement de peine.
C'est ça, c'est-à-dire que vous aviez, je crois, saisi la Cour de cassation?
La Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme.
Et donc ça, c'est épuisé.
Ça, c'est épuisé. C'est comme Dominici, le petit-fils, qui ne cesse de se battre pour obtenir la révision du procès de son arrière-grand-père, Dominici, et qui n'a jamais obtenu et qui n'obtiendra peut-être jamais. Mais il y a des gens qui continuent à clamer l'innocence de Dominici, comme certains continuent à clamer l'innocence de Madame González Manuela.
Et alors, Manuela González, dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui? Elle a 60 ans, elle est en prison encore pour quelques années. Qu'est-ce qu'elle devient, comment elle vit cette détention?
Alors, en détention, c'est une femme qui ne suscite pas de débat, qui est appréciée par les uns et les autres, qui a un bon dossier, qui est raison pour laquelle elle a cru qu'elle pouvait d'ores et déjà obtenir une libération dans le cadre d'un aménagement de peine qui lui a été pour le moment refusé. C'est une personne, je le dis, qui est calme, paisible, qui ne suscite pas de troubles au centre pénitentiaire où elle est détenue.
Alors je suppose qu'elle va renouveler cette demande d'aménagement de peine. Elle pourrait sortir dans quelques années, vous le pensez?
Oui, la loi permet, parce qu'il n'y a pas... Il y a juste un problème de sûreté de la peine qui doit être levée, mais elle est autorisée à solliciter que cette sûreté qui est prononcée de manière quasi automatique lorsqu'on prend une peine de la nature de celle qui a été prononcée. Mais si elle venait à obtenir la levée de cette sûreté, elle pourrait bénéficier d'un aménagement dans les années qui viennent assez rapidement. C'est pas interdit. Elle n'a pas été condamnée avec une peine de sûreté de 20 ans. Mmh. Vous voyez ?
Tout à fait. Merci beaucoup Maître Ronald Gallo et Serge Pueyo d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Manuela González, la veuve noire de l'Isère qui purge sa peine, donc 30 ans de prison pour le meurtre de son dernier mari et paye aussi, on l'a bien compris, pour son passé. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.
Pour écouter RTL au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.